Chapitre 16. Après les journées de travail, alors que le soir tombait lentement sur nous, comme un rideau de théâtre sur un mauvais et inutile drame, Lucien avait, souvent, de ces conversations, ou plutôt de ces soliloques violents, inachevés et coupés de silences terribles. Je l'observais tandis qu'il parlait. Ce n'était plus le même Lucien, ce gentil et souple Lucien que j'avais rencontré au pays. Ni sa physionomie avenante et fine, ni ses yeux de clair, de mouvante lumière, ni cet air de sérénité jeune, par quoi tout d'un coup ma détresse s'était allégée, et qui m'avait attiré comme vers un asile de paix, de joie et de force tranquille. De force et de joie. Oh, pauvre, pauvre Lucien. Je le revois. Et cette vision qui, après tant d'années, ne m'a quitté un seul jour, me fait toujours mal. L'effort qu'il dépensait pour trouver ses mots et les prononcer lui couvrait le visage de plis durs, de contractions douloureuses, tel un vieillard ou bien un fou. Son regard m'effrayait en ces moments. Son regard était pareil au regard hallucinant des figures de ses toiles. Il ressemblait au ciel tourmenté et dément de ses paysages. Je n'osais rien dire. Je ne savais que dire. Tout ce que j'aurais pu dire, approbation timide, banale consolation, n'eût servi à rien, n'eût servi qu'à l'exaspérer davantage. Et je sentais que mon silence, que l'immobilité de mon silence, l'exaspérait plus encore. Il en attendait sans doute un geste, un élan, une compréhension muette. Que faire ? Une discussion technique eût ramené mon esprit vers de moins personnelles réflexions, vers des inquiétudes générales. Mais il eût fallu savoir, et je ne savais rien. J'étais incapable de me raisonner à moi-même les impressions ressenties devant l'étrange nouveauté de ses œuvres. Je ne connaissais non plus aucune des paroles qui rassurent et qui apaisent. En vain je les cherchais dans mon cœur attristé, dans mon cœur affolé. Je ne les trouvais pas. Et puis, une épouvante grandissait chaque jour en moi. Une épouvante me secouait comme la rafale une pauvre petite tige grêle, une pauvre petite plante sans tuteur. Est-ce que l'art, c'était vraiment cette torture, cet enfer? Moi qui, dans mes rêves encore bien confus, il est vrai, me le représentais tel un grand apaisement, tel l'idéal et chimérique et infini paradis où l'homme ne crée que le bonheur. Est-ce que, moi aussi, j'allais vivre en ce perpétuel allaitement, avec ce visage tordu de souffrance et cet œil convulsé où passait l'éclair livide de la folie? Cette pensée me faisait froid dans le dos. Je n'aurais pas voulu être là. J'aurais voulu être ailleurs, loin, chaque fois que je voyais Lucien en proie à ses crises. J'avais envie de fuir, de retourner au pays où l'on ne rencontre que des faces humaines sans pensée, que des yeux humains sans reflets, des faces et des yeux pareils à des eaux mortes. Mais je n'osais pas fuir non plus, retenu malgré moi, par je ne sais quel mystérieux et horrible plaisir ou supplice d'être là. Et dans l'atelier, la pénombre accrue me semblait à chaque minute plus tragique. Les objets s'y amplifiaient sinistrement, s'exagéraient, jusqu'à l'irréalité du cauchemar. Les figures peintes autour de moi s'animaient d'une vie terrifiante, tendaient vers moi des regards surnaturels, des bouches vulvaires qu'un ricanement sanglant déchirait. Et les chevalets m'apportaient l'image d'atroces crucifiés. Alors, tout d'un coup, saisi par une peur physique, je criais « Lucien, Lucien, je t'en prie, allons-nous-en d'ici !» Dans la rue, je me calmais un peu, et Lucien aussi peu à peu se calmait. Son découragement prenait une forme moins sombre, un espoir dans les travaux du lendemain, il glissait une petite lueur de confiance nouvelle. et je voyais avec joie sa physionomie se détendre, les plis de sa peau, les contractions de sa bouche s'effacer. Quant à moi, le bruit de la rue, le mouvement de la ville, les boutiques éclairées, le coudoiement des passants, finissaient par chasser de mon cerveau les fantômes. Lucien insinuait son bras sous le mien, et, tout en marchant, il disait d'une voix moins heurtée « La peinture, tu ne t'imagines pas, mon garçon, combien c'est difficile, et peut-être impossible. Oui, souvent j'ai pensé que ça pouvait être une mystification, comme tout le reste d'ailleurs, qui sait. Enfin, il y a deux choses dans la peinture. Donner le caractère à ce que l'on peint, le dessin si tu veux, et puis le métier. Il y a le métier, le métier. Ainsi, tiens, par exemple, tu es dans un jardin. Oui, dans ce jardin, il y a des fleurs, des groupes de fleurs, de couleurs différentes, et hurlant l'une contre l'autre, je suppose. Bon, théoriquement, tu vas t'imaginer que cela est inharmonique. En effet, cela devrait être inharmonique. Eh bien, pas du tout. Dans la nature, c'est toujours beau. La nature se fiche des théories, elle. Et je vais t'expliquer pourquoi. La nature, ou si tu aimes mieux, la lumière, fait une opération, comment dirais-je, chimique. Non, pas chimique. Enfin, n'importe. Toute seule, et sans que cela soit sensible à l'œil, elle ménage par d'invisibles juxtapositions de nuances le passage d'un ton à l'autre. Eh bien, c'est cet invisible passage que le peintre, pour arriver à une harmonie approximative et nécessaire, doit voir et reconstituer sur sa toile. Il ne peut le faire qu'en divisant le ton. Ouais, mais voilà. Ah, nom d'un chien! Et tu sais, il ne se doute pas de ça à l'école. Puis, brusquement, il s'interrompait et, me donnant un coup de coude, il disait « Mais quelle drôle de tête tu avais tout à l'heure! Et pourquoi voulais-tu t'en aller? Tu étais malade ?» Je lui avouai la peur qui m'avait saisie. Je lui décrivais les étranges visions de l'atelier. Lucien exultait. « Eh bien voilà, c'est de l'art, mon petit. L'art, c'est ça. Des visions? Mais tu es un enfant. Tu as trouvé le caractère des choses de l'atelier, ni plus ni moins. Un chevalet comme une croix, comme un gibet. Bravo, c'est ça, c'est le caractère. » Tu as donné à cet objet, qui n'est rien, qui n'a pas une existence réelle, la forme des terreurs de ton esprit. Demain, peut-être, tu verras autrement. Tu le verras comme une cathédrale, comme une grande fleur de soleil. Il faut bien te mettre dans la tête une vérité. Un paysage, une figure, un objet quelconque n'existe pas en soi. Il n'existe seulement qu'en toi. Tu t'imagines qu'il y a des arbres, des plaines, des fleuves, des mers. Erreur, mon bonhomme, il n'y a rien de tout cela, ultérieurement du moins. Tout cela est en toi, et c'est bien plus dur, il me semble. Un paysage, c'est un état de ton esprit, comme la colère, comme l'amour, comme le désespoir. Et la preuve, c'est que si tu peins le même paysage, un jour de gaieté et un jour de tristesse, ils ne se ressemblent pas du tout. La nature, parbleu. Je crois bien à la nature. Elle est admirable, la nature. Admirable en ceci. Écoute-moi bien. Qu'elle n'existe pas. Qu'elle n'est qu'une combinaison idéale et multiforme de ton cerveau. Une émotion intérieure de ton âme. Un arbre. Un arbre. Eh bien quoi, un arbre? Qu'est-ce que ça prouve? Les naturalistes me font rire. Ils ne savent pas ce que c'est que la nature. Ils croient qu'un arbre est un arbre, et le même arbre. Quels idiots! Un arbre petit, mais c'est 36 000 choses! C'est une bête, quelquefois. Est-ce que je sais, moi? C'est tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu comprends. Je te dis cela très mal, mais je te dis la vérité tout de même. Et il me secouait le bras rudement comme une branche, et il répétait « C'est évident, voyons, voyons, mais ça saute aux yeux !» Ces paroles, où je relevais tant d'incohérences, tant de contradictions, ne me rassuraient pas. Mais elles se dissipaient vite dans l'air, et je n'en retenais qu'un bruit discord, comme le son de la corne du fontainier qui va se perdant dans les rumeurs de la ville. Nous arrivions ainsi, lui grisé de ses paroles, moi étourdi de les entendre, à la pension où nous avions coutume de dîner le soir. Une petite pension modeste et morne, fréquentée par des employés du ministère et de vagues bourgeois sans famille. Lucien l'avait choisie telle pour « changer d'air », disait-il. Il évitait, autant qu'il pouvait, les crèmeries artistiques, les cafés littéraires. C'était une sorte de repos intellectuel, une trêve aux préoccupations qui lui cassaient la tête et lui brisaient l'estomac. Et, avec les habitués, il s'entretenait gaiement de choses bêtes, de politique, de cuisine, de femmes. « Des têtes de veau !» m'avait-il dit le premier soir. « Mais tragique, tu verras. Des daumiers. Moi, je ne trouve rien de terrible comme un bourgeois, gras et chauve. Toute la férocité humaine est là, mon garçon. Et c'est d'un dessin. C'est comme de la croix qui a fait d'Hamlet un petit godeluro sentimental et romantique. Une gueule de coiffeur amoureux, maigre, avec de grands yeux caves. « Mais c'est idiot ! Regarde l'Hamlet de Shakespeare. À la bonne heure, un gros homme bedonnant, soufflé de graisse pâle et lourd de bière. Un Danois, quoi. Et les vois-tu, ses yeux énigmatiques ? Ses yeux hagards, ses yeux de douloureux fumiste. Les vois-tu, à travers le bridement des paupières, dans la fadeur de cette face grasse et de ses cheveux filasses. Brrr. « Oui, mais voilà, Delacroix, avec tout son génie, vivait dans une époque bête, bête. Tiens, Hugo, ce qu'il me rase, celui-là. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a compris? J'aime mieux le vent dans les pins et les orgues dans les églises. Au moins, ça ne fait pas de discours, et ça dit quelque chose. Mazette !» Nous restions là 2 heures. Lucien riait au calembour des bourgeois, et il pinçait les cuisses de la bonne, quand celle-ci passait près de lui. Il avait une tenue vulgaire qui me faisait de la peine, mais j'aimais encore mieux le voir ainsi. « Ah, monsieur Lucien !» minaudait la bonne. « Finissez donc à la fin !» Et Lucien, avec un geste grossier et bon enfant, répondait « C'est pour rire, ma petite chatte. Moi, tu sais, je ne couche qu'avec ma peinture. » Et ça suffit à mon tempérament. Chapitre 17. En quittant la table d'hôte, nous rentrions chez nous par de longs détours à travers Paris. Lucien aimait surtout les flânes le soir sur les quais à nuitée. Les paysages nocturnes l'impressionnaient étrangement. Il marchait dans la nuit, ainsi qu'un prêtre dans une chapelle, avec une lenteur attentive et respectueuse. Tous ses sens en éveil frémissaient, son esprit était tendu jusqu'à l'extase. Il sentait réellement la nuit, il la touchait, il la buvait comme le vin du calice. Et, de temps en temps, pour exprimer son enthousiasme, il disait « Ah, nom d'un chien !» Puis, entre des silences, « Les valeurs de ça, hein? Comment rendre ça? Le sais-tu, toi? Et les valeurs, ce n'est pas le tout, mais l'odeur, oui, l'odeur de la nuit. As-tu senti la nuit, toi? La sens-tu? » Et il reniflait l'air avec un grand bruit de narine. « Ça sent, c'est drôle, ça sent comme un chat qui a dormi dans du foin. » Et il passait ses mains dans l'air comme sur un dos de bête, avec de lents gestes caressants. « Et c'est doux comme une fourrure. Ah, nom d'un chien !» Ensuite, il demeurait des quarts d'heure silencieux, ne répondant même pas aux questions que je lui adressais, et il se livrait à des gesticulations éperdues dont le sens m'échappait. Un jour, je me rappelle, Il s'accouda sur le parapet d'un pont. Je fis comme lui. Et nous restâmes longtemps ainsi, sans bouger, sans parler. Au-dessous de nous, le fleuve noir roulait ses eaux toutes pailletées de lueurs courtes, toutes moirées de reflets changeant comme une robe de bal. Les maisons profilaient leurs masses parallèles dans des perspectives de ténèbres, frottées de clartés tremblotantes. Au loin, les arcs constellés des ponts réfléchissaient dans l'onde leur lumière qui serpentait en zigzags tronqués et mouvants, ou bien s'enfonçait en colonnades incandescentes dans des profondeurs infinies, dans des ciels renversés couleur de cuivre. Et des silhouettes violentes se dressaient çà et là, sur des fonds de pâle firmament, et des silhouettes indécises, ombre sur de l'ombre, glissaient, sans bruit, sur le fleuve. « C'est beau, ça, hein ?» me demanda Lucien. « Oui, c'est beau, » répondis-je machinalement et sans conviction, car, en présence de Lucien, je ne pouvais plus avoir une sensation personnelle. Il m'absorbait tellement que rien, au dehors de lui, n'existait plus pour moi. Il avait tellement dérouté mon esprit que je n'osais plus suivre une idée, ni jouir d'un spectacle, sans éprouver la crainte que ce ne fût pas de l'art. Je redoutais par-dessus tout qu'il me demandât de lui expliquer, comme cela lui arrivait souvent, pourquoi je trouvais une chose belle. Il a répété sa question. « Alors, tu trouves ça beau ?»«
Mais oui !»«
Eh bien, mon garçon, sais-tu à quoi je pense ?»«
Non, Lucien. »
« Eh bien, mon garçon, je pense que nous crevons de ça. » Si habitué que je fusse aux aigres paroles de mon ami, je levai la tête vers lui, avec, dans les yeux, un point d'interrogation inquiet.
« Ça, quoi ? » dis-je. « Que dis-tu ? »
« Je dis la ville, » prononça Lucien, qui décrivit dans l'air un geste dont l'amplitude embrassa Paris tout entier. La Seine chantait doucement autour des piles du pont. L'appel lointain d'une trompette de tramway vint mourir entre les parapets.
« Pourquoi dis-tu ça, Lucien ?»«
Parce qu'il faut que Paris saute ! Parce qu'il faut que toutes les villes sautent !»«
Pourquoi dis-tu ça, Lucien ? » répétai-je.
« Parce que je ne suis pas heureux ! Es-tu heureux, toi ? Et crois-tu qu'ils sont heureux, les 2 millions d'êtres qui sont ici, et qui vont, on ne sait où, et qui veulent, on ne sait quoi ? Et il n'y aura un bel art, c'est-à-dire une belle vie, car tout se tient que lorsque Paris ne sera plus. »
Il se redressa, tourna le dos au fleuve, et, s'asseyant sur la pierre, il posa ses mains sur mon épaule.
« Tout ce qu'il y a de fort, tout ce qu'il y a de bon, Paris l'appelle et le dévore. Des meilleurs. Paris ne fait que des fous ou des crapules. Moi, je sens que je deviens fou ici. Paris me mange le cerveau, me mange le cœur, me rompt les bras. On ne sera heureux que lorsqu'il n'y aura plus que des champs, des plaines, des forêts. »
Lucien était incapable de suivre longtemps un raisonnement. Il passait d'une idée à une autre sans ménagement, avec une rapidité qui rendait souvent ses conversations difficiles à comprendre. Ou bien, ses idées ne s'associaient qu'au moyen d'ellipses qui m'en cachaient le lien intérieur. Il me demanda tout à coup,
« Est-ce que je t'ai montré mon étude, le fumier ?»«
Non.
Comment, je ne t'ai pas montré ça ?»«
Ce n'est rien. C'est tout simplement un champ à l'automne, au moment des labours, et au milieu, un gros tas de fumier. »
« Eh bien, mon garçon, quand j'ai peint ça, je me rappelle.
Ah, nom d'un chien!
As-tu quelquefois regardé du fumier? C'est du mystère! Figure-toi, un tas d'ordures d'abord, avec des machines, et puis, quand on cligne de l'œil, voilà que le tas s'anime, grandit, se soulève, grouille, devient vivant. Et de combien de vie ? Des formes apparaissent, des formes de fleurs, d'êtres qui brisent la coque de leur embryon. Et c'est une folie de germination merveilleuse, une féerie de flore, de faune, de chevelure, un éclatement de vie splendide.
J'ai essayé de rendre ça dans le sentiment. Mais va te faire fiche. Eh bien, vois-tu, j'ai besoin de revoir du fumier, de la terre, des mottes de terre, hein? Je vais partir, demain, pour un mois, pour deux mois. Je vais aller je ne sais où. Très loin, peut-être.
J'irai avec toi, Lucien, suppliai-je.
Non, non, il faut que je sois seule. Quand je suis comme ça, il ne faut pas que je parle. Tu travailleras pendant ce temps-là.
Nous rentrâmes chez nous, sans rien dire. J'accompagnai Lucien à l'atelier, où il prépara une petite valise, sa caisse de toile et de couleurs. Il s'interrompit plusieurs fois de sa besogne pour me dire
« Eh, tu verras, Paris sautera !»
Quand les gens auront fini de venir de leurs forêts, de leurs montagnes, de leurs plaines, se briser le crâne contre ces pierres, il sautera, je te le dis,
et il n'en restera plus que l'odeur.
Un grand poète dit « L'endroit où il y a eu un théâtre sent comme un rat crevé sous un parquet. »
Pour une ville, mettons comme un bourgeois crevé dans sa cave, et ce sera tout.
Allons, petit, va te coucher, embrasse-moi. « À bientôt !» En effet, le lendemain, Lucien partit. Il était gai comme un oiseau qui, le matin, s'égosille dans un sorbier. Chapitre 18. J'avais tellement l'habitude de vivre avec Lucien, d'agir et de penser par lui, que... Une fois redevenu seul et privé de mon guide, il me sembla que j'étais de nouveau perdu dans un désert. Et Paris, sans Lucien, me fut aussi triste, aussi vide que la grande maison de là-bas, après la mort de mes parents. Malgré mon horreur de la solitude, je ne voulus point aller prendre mes repas aux endroits coutumiers, par timidité naturelle, et aussi par dégoût des plaisanteries dont s'ornait la conversation à cette table d'employés, que l'émulation d'être avec un artiste incitait au rire canaille, aux familiarités gênantes. Pour rien au monde non plus, je n'eusse consenti à me rendre, le soir, dans le café où Lucien m'avait conduit plusieurs fois, et présenté à quelques jeunes artistes, à quelques jeunes écrivains, ses amis, qui s'y réunissaient quotidiennement. Je n'avais encore, parmi ces naissantes et intimidantes gloires, nulle amitié. N'osant pas parler, gauche de mouvement, mal initiée aux questions transcendantes qui se résolvaient là, je sentais très bien que, dans ce milieu de théories combatives et de furibondes esthétiques, je n'étais qu'un intrus assez ridicule, et j'y comptais pour moins que la banquette gluante sur laquelle j'étais affalée, ou le boc vide, raflé sur la table par un grand geste de poète affirmateur d'idéal. Durant l'absence de Lucien, je résolus de ne voir personne et de ne pas sortir, hormis le soir, où l'habitude me ramenait aux endroits favoris de nos promenades nocturnes. Lucien m'avait confié les clés de son atelier. C'est là, dans cette pièce toute pleine de lui, toute grimaçante de lui, que je passais mes journées. Dans cette chambre de sa torture journalière, j'essayais de me mettre au travail, avec ardeur. Lorsque Lucien reviendrait, je voulais lui montrer quelque chose de moi. Mais le travail me fut une terrible peine, car mon esprit était vide de moi, et c'est Lucien que je retrouvais au fond des choses que je tentais de décrire, des idées que j'essayais d'exprimer, un Lucien anémié, essoufflé, impuissant. Et tel était mon détraquement cérébral, par suite de la substitution d'une autre personnalité à la mienne, que je ne pouvais plus considérer le plus banal objet avec tranquillité. Je ne pouvais voir un balai, un porte-plume par exemple, sans m'ingénier à en faire surgir tout un monde de cauchemars, d'en tirer des analogies effarantes et surnaturelles, et sans entendre une voix intérieure, qui était la mienne et celle de Lucien, étrangement confondu, me criait « C'est cela, encore, cherche encore plus de mystère et plus de terreur, c'est le caractère, c'est l'art !» À ces jeux, mon imagination s'épuisait,
mon cerveau sans cesse tendu vers d'impossibles combinaisons de formes s'endolorissait. Et après de vaines luttes contre ces fantômes, les membres rompus, la tête engourdie, je tombais dans des prostrations semblables à la mort. C'était en moi et autour de moi comme un immense abîme blanchâtre, comme un grand ciel immobile que traversaient de temps en temps des vols d'oiseaux chimériques, des fuites de bêtes éperdues, métamorphoses de mes pensées en déroute. Au lieu de me retremper, de me rafraîchir dans un bain de vie, de rappeler à moi les souvenirs ingénus, les douces ironies de mon enfance, les émotions des paysages d'autrefois, simples et tranquilles, je m'enfonçais, chaque jour, chaque heure, davantage, dans cette fièvre mauvaise. La nuit venue, comme une chauve-souris, je m'arrachais à mon trou d'ombre, et j'allais le long des quais, sur les ponts, partout où Lucien et moi avions passé des heures de morne rêverie. J'allais revoir l'obscurité inquiète, chercher au tremblement des eaux noires, pailletées de lumière, les cris douloureux, les cris affolés qui avaient jeté Lucien. Je rentrais tard, brisé, les jambes molles, la gorge serrée par une indicible angoisse. Et je m'endormais d'un sommeil pénible, d'un sommeil de malade que dévore la fièvre. Et c'est à cette époque que, pour la première fois, mon cœur s'éveilla à l'amour. Pauvre petite Julia, frêle et lente, et très blonde, avec une figure pâle de fleur enfermée. Oh, que ses mains étaient blanches, et qu'il était doux son regard, un regard de malade qui cherche à surprendre dans les autres regards le secret fatal que les lèvres ne disent pas. Regard triste et ingénu, et pourtant coquet, et pourtant plein d'amour. Comme je l'aimais, la première fois qu'il se posa sur moi, comme un oiseau se pose sur une branche morte. Julia était la fille de nos concierges. Jusqu'ici, elle avait travaillé chez une couturière, mais elle était trop faible et souffrante, on ne savait de quoi. Ses parents l'avaient reprise chez eux. C'était elle qui, tout le jour, gardait la loge. La mère faisait des ménages, le père était garçon de bureau dans une maison de banque. Flexible et jolie et souriante, elle répondait à tous les gens qui venaient et tous les gens s'attardaient un peu, heureux de la regarder. On eût dit que sa seule présence eût chassé l'odeur fade de graisse dont la loge étroite était ordinairement pleine et qu'elle y mettait un parfum de fraîches et jeunes fleurs. Chaque fois que je sortais ou que je rentrais, je pénétrais dans cette loge où je la trouvais presque toujours seule. Et je lui demandais s'il n'y avait pas de lettre pour moi ou pour Lucien. Et après sa réponse, je restais là, debout devant elle, sans plus rien dire, un peu étonnée de mon audace et gênée de mon silence. Elle non plus ne disait rien. Elle se mettait à ranger de petits bibelots, de pauvres petits bibelots, sur une étagère, ou à épousseter avec un plumeau les cadres des chromolithographies qui ornaient les murs. Et je sentais mon cœur se fondre en des délices inconnues, à voir sur la nuque ivoirine de Julia frémir les mèches blondes. « Eh bien, au revoir, mademoiselle Julia. »« Au revoir, monsieur. »« Et s'il nous vient des lettres, ne les faites pas monter, je les prendrai. »« Bien, monsieur. »« Allons, au revoir, mademoiselle Julia. » « Au revoir, monsieur. » Et il me semblait que son sourire avait une ironie légère et charmante, et aussi une compréhension de tout ce que ma bouche ne disait pas, mais qui était dans la gaucherie de mes gestes, dans la timidité de mes yeux. Un jour, elle me dit « Oh, monsieur, je serais si heureuse si vous vouliez me prêter des livres. » Mon cœur battit avec violence. Cette phrase me fut comme un baiser. Je balbutiais. Je n'ai pas de livre, mais j'en aurai, mademoiselle Julia. Quel livre voulez-vous que je vous donne ? J'avais repris un peu d'assurance.
« Je ne sais pas, moi, de beaux livres qui font pleurer, » dit-elle.
« Des livres d'amour, n'est-ce pas ?»
Et de prononcer ce mot « amour », le rouge me monta à la figure.
Julia eut une expression de joie qui illumina tout son visage.
« Oh oui, des livres d'amour, des livres comme on m'en prêtait à l'atelier !»
Un sang plus chaud coulait dans mes veines. Je sentais mes muscles plus forts et capables d'une étreinte virile.
« Je vais vous chercher des livres, » dis-je d'une voix résolue et brave. Je partis, comme un héros qui va conquérir un monde nouveau. Quand je revins, chargé de volumes, la mère était dans la loge. Je n'osais pas y entrer et je remontai dans l'atelier de Lucien. Ce jour-là, je n'eus pas à lutter contre les fantômes. Toutes les formes étaient divines, toutes les couleurs radieuses. C'était, en moi, comme un jaillissement de fleurs magnifiques et pures. C'était, sur moi, comme une ondée de parfums. Et je ne cessais de me répéter cette phrase de Julia, cette phrase qui m'était une révélation de l'amour. « De beaux livres qui font pleurer !»